my hometown is a plastic gun. Here lies the world, I mean. So I live in the downtown. It's to be in a weird way. Je suis dans la rue, j'écoute la barge russe. En voyage avec Johnny, pour tout oublier. Je meurs dans un hôtel, écoutant sa chronique. Je regarde par la fenêtre et comprends bien pourquoi. My hometown is a plastic gun, here lies the world I mean. So I live in the downtown, it's to be in a weird way. Comprenez-vous ce que je dis? J'allume tout mon blues. New York à Cork en passant par vous sur la barge russe. My hometown is a plastic gun. Here lies the world I mean. So I live in the downtown. It's to be in a weird way.
Barge russe 12-14. L'un tout. Un tiré tout. La multiplicité de et dans la singularité de chacun d'entre nous va donc débuter, dans ce moment présent, dans cette chronique, par un essai de 1974 de Paul Valadier. Cet essai s'appelle « Essai sur la modernité, Nietzsche et Marx ». Alors, ça fait très longtemps que je l'ai. Là, je l'ai ressorti, je relis tout ce que j'avais pu noter dessus. Donc je vais commencer par « Notre société vise à une conquête de la nature bon, ». Ce qui n'est pas étonnant. On est grand 74... Enfin, 74, c'est pas si vieux que ça. Hein, ça fait 50 ans. Mais bon, sinon, c'était déjà le cas. Donc toujours. Ensuite, plus loin. Voilà. Plus loin, il parle de Hegel, Freud. Et alors là, on arrive à Kant à Nietzsche. Peut-être est-il le plus grand radical de tous, dans la mesure où il ne met pas au compte des structures économiques la maladie humaine, mais où il va jusqu'à dénoncer dans la catégorie moderne elle-même le virus qui contamine l'homme tout entier jusqu'en ses profondeurs instinctuelles. Donc le pire ennemi de l'homme est l'homme. En tout cas, ce qu'il veut faire du monde, comme on l'a vu, il veut... je sais plus ce que je vous ai dit... la société et la conquête de la nature, voilà, par du bitume, notamment. La modernité, en effet, se croit différente de la tradition. En réalité, il n'en est rien. Elle ne fait que reproduire, sous des dehors nouveaux, la vieille angoisse humaine devant la nature et devant l'autre homme. Cette angoisse, elle-même, est la source et l'aliment de la maladie séculaire qui consiste en ce que l'homme veut se mettre au-dessus du monde et l'ordonner à lui. Non, je vais relire ça. Cette angoisse elle-même est la source de l'aliment, de la maladie séculaire, qui consiste en ce que l'homme veut se mettre au-dessus du monde et l'ordonner à lui. Le modernisme, c'est ça en fait. C'est ce qu'il veut... détruire l'homme. L'homme veut se mettre au-dessus du monde et l'ordonner à lui. Une telle prétention maladive engendre agressivité, insatisfaction, ressentiment. Autant de symptômes d'une peur de la vie et d'une volonté d'en annuler l'étrangeté redoutable. Donc là, vous avez vu, j'ai parlé d'angoisse et de sécularisation. L'angoisse, nous verrons ça plus tard avec la grande transformation du sommeil. L'angoisse qui joue un rôle très important dans nos sommeils à nous tous. Et la sécularisation, eh bien c'était dans le journal, un article dans un Ouest France, un point de vue donc en première page, par Jacques Le Goff. Depuis que le capitalisme financier domine l'économie mondiale, soumise à l'aune d'un profit sans scrupule, le droit se retourne en entrave à la prospérité. Conséquence, si les formes de la démocratie sont sauves, sa substance s'effrite dans un processus de déconstruction méthodique. L'État qui s'efforçait de réguler le fonctionnement de la machine économique sous l'horizon d'un minimum de justice se mue en bras séculier et exécuteur de la purge à la Elon Musk. On est en 2025, 51 ans ont passé. Et donc déjà, ça se mettait vraiment en place. C'était déjà là, quoi. Maintenant que le monde moderne, quand il emploie le mot séculier, est donc bien sûr sans religion, sans croyance même peut-être, sûrement. Moi je mettrais ça plutôt sans croyance. Le mec il croit en rien, et paf, d'un mouvement séculier, je relis le texte, séculier, exécuteur de la purge à la Elon Musk. Donc il se pose pas de questions sur ce que lui il peut lui arriver plus tard. Ça vient justifier ce que moi je pense, c'est que étant assez positif pour l'avenir, voilà. Étant même très positif. Ainsi fleurissent dans la servitude les fleurs vénéneuses de la démocratie illibérale. Donc illibéral, je répète, c'est quand c'est du libéralisme. Tu dis ouais, allez, c'est pour mes habitants et tout, pour la liberté. Et en fait non, illibéral, c'est-à-dire qu'en fait tes habitants, ils sont pieds et poings liés au gouverneur, quoi, enfin au chef d'État. Infiltré au sein même de l'Union européenne, donc en Hongrie et en Slovaquie. C'est d'ailleurs le livre que j'ai, Moment illibéral, je sais plus de qui. C'est là-dedans que j'ai beaucoup appris sur l'illibéralisme. Encore attaché au vieux compromis historique entre économique, sociale et liberté politique. Thank you. Donc nous venons d'écouter Sico Jolé, des percus guinéennes. Je reviens à l'essai essai sur la modernité de Paul Valadier, la société moderne tend à exténuer l'altérité divine par la religion, un dieu provident et bon, tout tourné vers l'homme. Donc ça, c'est on dégage. Naturel par la technique et la science. Cette angoisse elle-même est la source et l'aliment de la maladie séculaire qui consiste en ce que l'homme veut se mettre au-dessus du monde et en donner à lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une telle prétention maladive engendre agressivité, insatisfaction, ressentiment, autant de symptômes d'une peur de la vie et d'une volonté d'en annuler l'étrangeté redoutable, dominée par la peur. La société moderne, donc, tend à exténuer l'altérité, divine par la religion, un dieu provident et bon, tout tourné vers l'homme, naturel par la technique et la science, humaine par une morale altruiste et égalitaire. Il faut par-dessus tout que triomphe l'identique, que disparaisse toute distance de l'homme à l'homme, comme de l'homme à la nature. Il est vraiment super ce bouquin. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a plus de croyances possibles. C'est pas possible. Il n'y a plus de croyances. Tu peux appartenir à une religion, mais à une religion... mais la croyance a quasiment... Bon, je ne peux pas parler au nom de tous, hein, bien sûr. Mais a disparu pour beaucoup. Bon, plus loin. Capitaliste pose la base matérielle. Bon, ça, on est tous plus ou moins conscients, quand même. L'idée moderne de révolution, telle qu'elle a été forgée par Marx, écrit-il, n'a pu naître qu'au moment où le capitalisme s'était déjà suffisamment implanté et consolidé pour faire apparaître ses traits caractéristiques, bien sûr. Énergie créatrice de l'homme reste et resteront de plus en plus en réserve. Les énergies créatrices, c'est vrai. Vu que ça, là, beaucoup de la création, les créations naissent par les contradictions. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu vas essayer de générer un concept ou quelque chose qui va t'amener à quelque chose de nouveau. Et tout ça, vu qu'on veut que le modernisme veut calmer tout le monde, en fait, veut plus de révolution, veut rester maître du monde et pas avoir de problème. Tout le monde doit se ressembler. Ça, on l'a déjà dit il y a longtemps déjà. On le dit souvent, les barges russes. Hein. Je le dis plusieurs fois. Et là, vraiment, avec ce qui arrive today. Après cette gorgée de café, et déjà avant et après, c'est ça, c'est la Russie, les deux plus grosses puissances du monde, vraiment, qui se sont apparemment jamais entendues. Par Trump et Poutine, peut-être qu'ils sauveraient ça et ils emmèneraient de la liberté, de la paix. Peut-être. La liberté, je ne sais pas, parce qu'on va rester dans un illibéralisme assez prononcé, je pense. Mais je reste assez positif par rapport à ça, mais ça, en tout cas, ce qui va arriver, ça pourrait être pire, on pourrait dire. Ça pourrait être pire. Faut rester assez positif, hein, très positif. Je pense que ça nous regarde même pas. Nous, on n'est que des moutons, hein, vous savez bien. Thank you. Donc voilà, nous venons d'écouter le numéro 14, number 14, by the lab, from the BO, from the soundtrack openings, the movie, you know, by Philip Glass. Philip Glass, yes, baby. Et donc, il y a peu de temps, vous savez, que j'aime beaucoup Gilles Deleuze, et je suis tombé récemment dans une boutique d'occasion, Alain Badiou, Deleuze, La Clameur de l'être. Et vraiment, c'était une biographie, waouh! Très très bonne, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Deleuze sans vraiment le connaître, et ça je le tiens de Richard Pinas, que je connais maintenant assez bien, qui me dit bien qu'il y en a qui disent des trucs sur lui, mais qui n'en savent rien, quoi. Et lui, Badiou, il n'a pas vécu avec lui, il le dit bien au début, il ne l'a même jamais rencontré, mais à la même époque, et épistolairement, par envoi de lettres, donc, communiquer, échanger avec lui. Donc, je ne sais pas ce qu'il pense de celui-ci, Pinas, mais en tout cas, Richard Pinas, le musicien, notamment. Donc, fidèle à Nietzsche, Deleuze n'est pas dans la pensée, l'homme du ressentiment. Plus loin, la pensée multiple, la pensée du multiple opère sous deux paradigmes de longue date pointés par Deleuze. Le paradigme vital, des multiplicités ouvertes, et le paradigme mathématisé des ensembles, qu'on peut aussi bien dire stellaire, au sens de Mallarmé. Deleuze est le penseur contemporain du premier paradigme. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est par la multiplicité des échos, en fait, que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il écrit, ce qu'il... Ouais. Très passionnant. On peut assez communément que sa doctrine encourage, on pense assez communément que sa doctrine encourage la multiplicité hétérogène des désirs et porte à leur accomplissement sans entrave, qu'elle est soucieuse du respect et de l'affirmation des différences. Du respect et de l'affirmation des différences. Et là, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé un petit peu, ça m'a rappelé personnellement l'éducation. Comment tu éduques tes enfants, il faut pas leur dire « Non, tu fais comme ça parce que je te le dis de faire comme ça. » Non, il faut, depuis mon point de vue, mieux respecter la différence, donc même si ton enfant il est différent de toi, et son, l'affirmation, ce qu'il fait pour s'affirmer en tant qu'être humain. Donc Deleuze n'a rien cédé à l'esprit du système, prenant toujours l'ouvert et le mouvement, l'expérimentation sans normes préétablies. On pense aussi qu'il participe à la déconstruction moderne, pour autant qu'il instruit une critique décisive de la représentation, substitue la logique du sens à la recherche de la vérité, Pour lui, la logique du sens l'emporte, en quelque sorte, prend la place de la recherche de la vérité. Ce qui, en soi, ça ressemble peut-être un petit peu aussi, quoi, est une façon de parvenir à la vérité. Combat les idéalités transcendantes au nom de l'immanence créatrice de la vie. Bref, apporte sa pierre à la ruine de la métaphysique. Métaphysique, on l'a vu, donc Nietzsche était à la fin de la métaphysique et... Il faut aller voir Deleuze comme penseur joyeux de la confusion du monde. Et là, moi, je me retrouve vraiment dans ça. Plutôt positif dans les pensées, malgré tout ce qui peut, le mal-être que peut vivre le monde. Ah, je vais me prendre un autre bout de café, moi. Ouais. Non, mais moi, je suis comme ça, tu sais. Ah, ouais. Donc, j'aime beaucoup Deleuze. Pour énormément de raisons, notamment celle-ci, de s'identifier à plusieurs plusieurs traits de Gilles Deleuze. La confusion du monde pour la pensée veut sans doute d'abord dire que ni l'un ni le multiple n'en rendent raison. Il semble d'abord que Deleuze soit bien celui qui annonce qu'il nous faut renoncer à la distribution de l'être selon l'un et le multiple. Et donc, il était au-delà, en fait. À mes yeux, mais c'était un philosophe, d'accord ? Mais qui avait les balles, Nietzsche en l'occurrence, même Spinoza, mais qu'il, en soi, qu'il ressemblait plus à Leibniz que Spinoza, malgré son. Tout ce qu'il aimait, Spinoza coulait dans ses veines, comme il le disait. Mais il était. Oh, comment dire ? Il était. Au-delà, quoi. Il avait justement le côté invisible dont je vous parle très très régulièrement dans mes émissions. Je pense qu'il y était, quoi, aussi. Lorsqu'il donnait ses cours, mais regardez ses cours sur Internet. Il est, mais le mec, il est ailleurs, quoi. Tu regardes Jimi Hendrix, il est ailleurs quand tu le regardes. Il te regarde pas. Il va te regarder dans les yeux, mais il te regarde pas.
Ensuite, une seule et même voix pour tout le multiple aux mille voix, un seul et même océan pour toutes les gouttes, une seule clameur de l'être pour tous les étangs. Et DR, c'est quoi ? Différence et répétition, ouais, grand essai, ouais. Et voilà. Et tout aussi bien à ceux qui naïvement se réjouissent de ce que pour Deleuze tout est événement, surprise, création, rappelons que la multiplicité du « ce qui arrive » n'est qu'une surface trompeuse, car pour la pensée véritable, l'être est l'unique événement où tous les événements communiquent.
C'est-à-dire que c'est à ça que j'ai pensé à la fin, c'est la phénoménologie. Comme il l'écrit, nous sommes l'unique événement où tous les événements communiquent. C'est dans un phénomène autour de nous, un événement va se créer par une suite de phénomènes.
Tiens, et alors là, je vais vous raconter un truc vraiment plus personnel en même temps. Donc là, je lis Badiou sur Deleuze. Ils ne prennent pas assez au pied de sa lettre la conception proprement machinique que Deleuze se fait, non seulement du désir, mais plus encore de sa volonté ou du choix. De la volonté ou du choix, car cette conception interdit de considérer qu'à aucun moment nous puissions être source de ce que nous pensons ou faisons. Cette conception, donc, sa conception de la volonté des choix, par cette conception, interdit de considérer qu'à aucun moment nous puissions être source de ce que nous pensons ou faisons. Eh bien ça touche. Et je l'avais écrit bien avant de le lire. C'était d'ailleurs mon prof, monsieur Gnassounou à Nantes, c'était philosophie du langage. J'avais fait lire un petit truc que j'avais écrit, il m'a dit « Mais tu connais Deleuze ?» Et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait que je lise Deleuze. Et je parlais de l'amalgame des jeux. Et je vous en ai déjà parlé à la radio plusieurs fois. L'amalgame des jeux, c'est l'instant, un instant où se dresse devant toi plein de possibilités, plein de choix possibles. Donc là, tu te dis, tu ne peux pas être d'accord avec ce que dit Deleuze, pas avec son concept. Parce qu'il est interdit de considérer qu'à aucun moment nous puissions être source de ce que nous pensons ou faisons. Et moi, juste par la moyenne des jeux, en fait, si tu peux, mais si tu écoutes ce que je te dis jusqu'au bout, tu te dis non, c'est pareil. Parce que tu vas suivre le jeu selon l'instant, selon ton instinct, selon ton habitude. Donc, tout ça est déjà réglé. Ce qui va emmener un événement par des phénomènes. D'où la phénoménologie. Les choix qui s'opèrent se font quasiment tout seuls, quoi. C'est ça que je dis. Le choix se présente comme rapport absolu avec le dehors. Les choix se présentent comme rapport absolu avec le dehors. Lui-même le dit d'une autre façon, bien sûr, bien plus poétique. Mais
Voilà, c'est directement avec son avec l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur. C'est en réalité nous qui sommes choisis, et non pas du tout comme la philosophie de la représentation prétend, qui sommes centre ou foyer d'une décision. C'est clair et net. Là, si on reprend par rapport aux contradictions, comme je vous disais tout à l'heure, penser n'est pas l'écoulement spontané d'une capacité personnelle, c'est le pouvoir durement conquis contre soi. Donc la contradiction doit venir en toi, est en toi, mais par rapport à l'extérieur, justement, comme je vous disais à l'instant, des contraintes au jeu du monde. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que je suis tombé sur ce livre, et par rapport à ce qui se passe dans cette biographie, dans le monde actuellement, Deleuze, c'est le philosophe qu'il faut lire en ce moment. Si tu veux justement avoir une vision assez positive de l'avenir, tu vois. Certes, l'être lui-même est neutre, égal, inévaluable, au sens où Nietzsche déclare que la valeur de la vie ne peut être évaluée. La valeur de la vie ne peut être évaluée, mais les choses se tiennent inégalement dans cet être égal. Il s'agit toujours de savoir si un être dépasse ses limites en allant jusqu'au bout de ce qu'il peut, quel qu'en soit le degré. C'est se dépasser, en fait. Il faut toujours essayer d'aller voir au plus loin. Il ne faut pas essayer, il faut le faire. Il faut aller voir au plus loin possible. Il faut se détacher, se dépasser. C'est le voyage ultime. C'est le truc du voyageur, quoi, c'est aller voir plus loin, se déplacer, réfléchir, se poser des questions. Et à la fin du chapitre est écrit « Deleuze n'avait que mépris pour les débats ». Et là, je me dis, j'essaie de réfléchir, et moi, c'est, enfin, personnellement, ça reste un petit peu identique. J'aime pas discuter, vous savez, j'ai pas de copains, j'aime pas sortir avec des gens, des trucs mondains, je déteste ça, parce que tu dis quelque chose, il y en a un qui va dire « Ah non, moi, c'est moi les plus grosses, tu vois, mais non, toi, t'as tort. » Et, ou il dit pas que t'as tort, mais il dit que lui, ce qu'il dit, c'est mieux, quoi. C'est comme un chasseur avec son chien, quoi. Son chien, il est plus fort que le tien. Bon, bah, ouais, tu laisses tomber, quoi. Tu dis « Ok, enfin, c'est chiant. » Moi, je déteste ça. Ce genre de discussion qui mène nulle part et qui ne sert à rien, selon moi. Et Deleuze n'avait que mépris pour les débats. Il l'a écrit, ce qui a chagriné quelques âmes sensibles, pour que le débat seul, écoutez bien, le débat seul atteste que la philosophie est homogène à la démocratie parlementaire. Donc elle peut agir sans la démocratie parlementaire qui serait. Donc les débats... Là, je parle de débats avec des gens. Encore, quand il n'y a qu'une personne et tu discutes avec elle, là, c'est jouable, c'est cool. Mais le débat seul atteste que la philosophie est homogène à la démocratie parlementaire. Donc, là, moi, je me suis dit, radio, Bargerus, Johnny Tiefbeck, right now. C'est comme, pour moi, je préfère, je vous l'ai déjà dit aussi, que je préfère discuter tout seul que me prendre des murs par quelqu'un qui n'est pas d'accord, et il faut expliquer tout le temps. Bah, vous comprenez pas, moi tant pis, et changer de radio. Hein, de toute façon, voilà, donc plus loin maintenant. Et voilà, alors là j'avais trouvé un petit passage sur le Deleuze et le côté invisible par Badiou. Le nouveau fondement, il engloutit, donc, il déclare que loin d'être. Voilà. Le simulacre n'est pas une copie dégradée, il recèle une puissance positive qui nie et l'original et la copie et le modèle de la reproduction. Bon, ça c'est un... voilà. C'est un trait de Deleuze que j'apprécie tout spécialement. Une sorte d'amour inébranlable pour le monde tel qu'il est. Objectif, positif. L'amour qui est au-delà de l'optimisme comme du pessimisme. Amour qui signifie « il est toujours vain ». toujours en deçà de toute pensée de juger le monde. Ça, je trouve ça magnifique et vraiment en rapport direct avec le côté invisible, quoi. Maintenant, on va arriver au chapitre « Le temps et la vérité ». La vérité qui commence comme synthèse disjonctive ou expérience de la séparation du présent s'achève comme injonction mémorielle à tout recommencer. Autant dire qu'il n'y a pas de commencement, seulement du présent aboli. Donc là, c'est un peu relou quoi, de se dire des trucs comme ça, mais bon. Et de la mémoire qui monte à la surface, en voie d'actualisation. Et c'est ce à quoi je ne peux consentir, car je tiens que toute vérité est fin de la mémoire, dépli d'un commencement. Car je tiens que toute vérité, dit Alain Badiou, toute vérité est fin de la mémoire, dépli d'un commencement. C'est-à-dire que tu fêtes dans un truc, tu réfléchis, ou tu agis comme ça par habitude, et donc c'est dans ta mémoire. Comme ça. Et à un moment, tu vas avoir un déclic, tu vas dire « Putain, mais ouais, t'as raison, c'est pas du tout comme ça que ça passe. » Et donc là, pour Badiou, il va y avoir un commencement. Donc il n'était pas d'accord avec Deleuze qui lui disait que la vérité commence par, comme synthèse, disjonctive. Hein. Autant dire qu'il n'y a pas de commencement, seulement du présent aboli. Donc il est plus, un peu plus positif, Badiou, disons. Que je tiens que la vérité est fin de la mémoire. Ouais, bon, ça ressemble un petit peu quoi. Et j'ai rajouté donc ainsi, et c'est ce à quoi je ne peux consentir, car je tiens que toute vérité est fin de la mémoire, dépli d'un commencement. Et je rajoute ainsi que toutes les mémoires des fins d'histoire du recommencement. Je sais pas ce que je voulais dire. Ainsi que toutes les mémoires des fins d'histoire, qu'est-ce que par rapport à quoi? Car je tiens que toute vérité est fin de la mémoire. Oui, voilà. Car je tiens que tout, en fait, c'est la vérité qui, en même temps que la fin d'une mémoire, est toutes les mémoires, est toutes les fins d'histoire, est le recommencement. La vérité se constitue des vérités, est constituée des vérités. Voilà, ça c'est mon point à moi, ma ligne à moi, mais qui est sensiblement un petit peu différente des leurs, mais bon. Ensuite, plus loin, mais pour Deleuze, prise sous la loi de l'un, la contingence s'accomplit d'un seul tenant. Il n'y a pas de hasard des hasards, ce qui est le prix payé au plein de l'être. Bon, ça, je suis d'accord à fond avec lui. Pour moi, hélas, contrairement, alors Badiou, pour moi, Badiou, hélas, contrairement à sa propre et héroïque conviction que soutenait l'incorporation à l'un et l'unicité du hasard, la mort n'est jamais un événement. Et alors là, moi j'ai à noter, la mort est le dû à une suite de phénomènes. Donc n'est jamais un événement. Bon, soit oui, je suis d'accord avec Badiou, mais la mort est la fin, est un événement final, mais est un événement dans le sens où elle est due à la suite de phénomènes, une finalité si on veut. Mais c'est toujours la même chose, les phénomènes qui se suivent engendrent un événement. Voilà, donc je ne suis pas d'accord avec Badiou, mais avec Deleuze. Nous verrons demain la grande transformation du sommeil. Comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on verra en fin d'émission, mais en fait on verra demain.
Jet FM, plutôt crevé que de le louper. I am waiting for Helmut Schwartz. Et Blanc-Bec, qu'est-ce qui t'arrive? J'essaie de comprendre et je n'y arrive pas. Oh pardonne-moi mec, je m'explique mal. J'attends juste que quelqu'un comprenne. Il arrive avec sa canne, chaussures d'Indien et casquette en jean. Jamais en retard, toujours en avance. Mais qu'est-ce qu'il fout? Eh ben, il vient pour t'attendre.